Pur Café, une émission proposée par les Presses universitaires de Rennes, la Bibliothèque universitaire centrale de Rennes 2 et la Radio Syllabe. Aujourd'hui, la France des marges. À travers 12 entrées thématiques et des éclairages ciblés, ce manuel explore les logiques de la fabrique des marges. Un ouvrage dirigé par Martine Candelier-Cabon et Solène Godin. Une rencontre animée par Brieux Bisson, doctorant en géographie.
Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc on va vous exposer, mon collègue et moi, à partir d'un échange qu'on va réaliser ensemble, quelques éléments à partir de l'ouvrage « La France des marges » qui a donc été publié au PUR en 2017. Donc je me présente, donc Solène Godin, je suis maître de conférence dans le département de géographie aménagement de l'Université Rennes 2 ici. Et j'ai donc coordonner cet ouvrage sur la France des marges, qui est un ouvrage collectif où il y a une dizaine de collègues qui ont également contribué de diverses universités, l'Université Rennes 2 et également extérieures, tous majoritairement géographes, mais qui abordent des thèmes assez diversifiés concernant à la fois la sociologie, aussi l'anthropologie et une réflexion un peu générale sur les problématiques qui se posent aujourd'hui aux géographes sur cette question de la France des marges.
Et donc bonjour à tous, Brieux Bisson, je suis professeur agrégé à l'université de Rennes 2, au département de géographie également. Alors je n'avais pas contribué à cet ouvrage-là, mais par contre j'avais enseigné également et travaillé sur cette question-là, ce qui nous amène aussi à évoquer finalement la question du contexte de sortie de cet ouvrage, puisque c'est un ouvrage qui était sorti au moment où la France des marges était une des questions au programme des concours de l'enseignement, que ce soit le CAPES et l'AGREG. Et donc, les collègues, dont ici Solène Godin et puis Martine Candelier-Cabon, avaient voulu sortir un ouvrage sur cette question de la France des marges et un ouvrage qui sorte un petit peu du format manuel traditionnel et quelque chose de plus original. Je te laisse ici en dire plus sur cette question, d'essayer de proposer quelque chose qui sorte un peu du manuel classique, un peu comme une sorte de série de fiches. Ici, c'était un petit peu différent.
Alors, le contexte de la publication, c'est celui de la préparation d'une question au concours de l'enseignement, dans le cadre donc des CAPES et de l'agrégation d'histoire-géographie, avec des questions qui sont rotatives tous les 2 ou 3 ans, qui portent généralement sur la France abordée à partir d'un certain prisme. Donc ça peut être en ce moment, par exemple, la France des espaces ruraux, il y a eu la question de la France en ville. Là, ces 2 années, entre 2015 et 2017, le sujet était donc la France des marges. Donc le titre de l'ouvrage reprend directement le sujet qui était proposé dans le cadre de ces questions au concours. Cependant, derrière la définition même du sujet, il y a un certain nombre d'aspects qui sont assez complexes à aborder. On va en reparler dans un instant. Et le parti pris de l'ouvrage, c'était de ne pas abonder, comme on retrouve année après année, des manuels qui visent à faire des synthèses pour essayer d'aborder globalement les sujets qui sont proposés en cours, mais là, de faire appel à des spécialistes thématiquement qui proposent leur propre regard aux questions, au regard d'une question qui est transversale, puisque la question de la France des marges, en termes de définition, est quelque chose qui peut s'apprécier de différentes manières. Et donc on a demandé à plusieurs auteurs de se positionner par rapport à cela à travers différents prismes, alors qu'il s'agisse de l'histoire de la discipline, de la géographie et de la sociologie en l'occurrence, qu'il s'agisse de l'enjeu des mobilités, du développement de la société numérique, des enjeux aussi sociaux. Donc l'organisation de l'ouvrage est réalisée avec différentes entrées, très thématiques, et à chaque fois avec une visée qui est et théorique et concrète, c'est-à-dire la présentation des concepts qui se rapportent finalement à la question de marge, marginalité, distanciation, normes, on va en reparler, et en même temps avec des exemples concrets pour essayer de traduire ce que l'on pourrait comprendre derrière cette idée de France des marges. Donc au total, c'est une douzaine de contributeurs qui ont ainsi présenté leur travail sur des domaines très divers et variés.
Et cette question de la France des marges, pour les concours donc, du CAPES et de l'agrégation, c'était une question qui était assez originale par rapport aux questions traditionnelles qui sont posées. Hein. En général, c'est des questions... Alors, vous voyez, par exemple, juste avant, hein, cette question sur la France des marches était la France en ville, et puis la question qui est actuellement, c'est une question sur les espaces ruraux. Donc, c'est vrai que derrière cette question de la France des marches, il y avait des enjeux qui étaient assez originaux pour une question au concours et qui nous amène aussi à cette question de la définition, parce que autant la France en ville, bon, la ville, on voit à peu près la définition qu'on peut en donner, les espaces ruraux, on voit aussi un peu la définition qu'on peut en donner, malgré évidemment toute une série de complexités inhérentes à la ville et aux espaces ruraux, mais sur les marges, c'est beaucoup moins évident. Comme ça, vous demandez à quelqu'un dans la rue ce que c'est la ville, ce que c'est un espace rural, il sera capable de vous le dire. Vous demandez à quelqu'un comme ça qu'est-ce que c'est qu'une marge, c'est moins évident. Et donc, il y avait toute une série d'enjeux théoriques aussi derrière hein, cette question des marges qui était bien mise en avant par cet ouvrage. Alors, bah, voilà, on peut déjà pas commencer finalement, comme toute bonne réflexion en géographie, par définir cette question des marges. Et clairement, l'élément premier qui revient quand on cherche à définir ces marges, c'est que la marge, elle se définit toujours par rapport à quelque chose d'autre. Et là aussi, si on reprend, par exemple, l'opposition par rapport à la ville, elle se définit en elle-même. La marge, elle se définit par rapport à quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose d'autre par rapport auquel se définit la marge? Et là, ça pose déjà une vraie question et une vraie difficulté. C'est que la marge peut se définir par rapport à beaucoup de choses. Hein. Et finalement, si on caricature un peu ou si on synthétise ces idées de définition, c'est que ces marges, elles peuvent être de différents niveaux. Elles peuvent s'observer à un niveau spatial et elles peuvent s'observer à un niveau social. Et en fonction qu'on définisse la marge à un niveau spatial ou à un niveau social, on ne définit pas la marge par rapport à la même chose. Hein. Au niveau spatial, on définit la marge par rapport à un centre, à une centralité, à quelque chose qui serait de l'ordre du dynamique. Hein. Et puis, quand on s'intéresse à un niveau social, la marge se définit plus par rapport à une norme et à un système normatif. Hein. Et donc, on a ces deux niveaux de lecture qui peuvent être cumulatifs pour lire ces marginalités et qui, effectivement, rajoutent une complexité très, très propre à cette question, à cette question des marges. Et c'est aussi sur cette base-là que les grands débats théoriques étaient mis en avant, notamment dans cet ouvrage sur les marges.
Voilà, donc exactement. Donc, la définition de la marge, qui occupe donc une partie importante de l'ouvrage, pour savoir de quelle France il s'agit, de quel territoire, de quel espace on peut associer et à partir de quel focal à cette appellation, cette désignation de marge, ou de forme de marginalité ou de marginalisation, puisqu'il y a évidemment les différentes formes et processus qui sont ici analysés. Et c'est aussi de traduire ce glissement que Brieux-Bisson vous a présenté à l'instant, d'une marge qui, à l'origine, était définie à partir de critères sociaux, donc de forme de marginalité, qui se développe à partir des années 1960 dans les théories de la sociologie, et qui, progressivement, quand on les bascule et quand on les transfère dans le champ de la géographie, montre un inégal recoupement. Donc on peut avoir des marges qui sont marginalisées, des marges qui sont aussi actives, des marges qui revendiquent ce statut de marge aussi qui existe à l'intérieur. Et donc la marge ici est à appréhender au regard de l'ouvrage comme un écart à la norme, mais une norme qui se rapporte à un système dominant. Il y a donc, derrière la définition de la marge ici, des enjeux qui se rapportent sur la géographie qu'on appelle donc de la domination et qui posent des questions autour de la justice sociale, de la justice spatiale et des différents rapports et lectures que l'on peut en avoir aux différentes échelles de temps et d'espace ici. Ainsi, la France des marges, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on pourrait qualifier en géographie de France des périphéries. Il peut y avoir des périphéries qui sont particulièrement intégrées ou des périphéries qui sont même parfois assez proches et on peut avoir au contraire des marginalités qui cumulent des effets de périphérie ou au contraire qui sont accentuées dans leur forme de marginalité du fait de leur proximité. Vous pouvez penser aux logiques de l'exclusion urbaine où on va parler de formes de marginalité qui sont pourtant attachées à des logiques de centralité ou au contraire des territoires qui sont éloignés, enclavés et qui se rapporteraient à une logique d'éloignement désirable, d'isolement désirable, de mise en valeur justement d'un certain caractère différent au rapport de ce que l'on pourrait avoir en termes de proximité et de logique traditionnelle et qui font de cet éloignement ou de cet écart à une norme un atout et essaient donc de le faire valoir. Donc c'est toute une relecture qui est faite aujourd'hui du rapport à l'espace, à l'éloignement, à la norme, qui est proposée à travers la question qui était celle de la France des marges, étant donné que le pluriel, vous avez vu, est ici extrêmement important, puisqu'il nous permet d'avoir finalement l'intégralité des notions et puis des territoires en France qui sont ici rebalayés.
Et donc, vous voyez, sur cette idée d'opposition, enfin, si ce n'est d'opposition, mais de complémentarité ou de distinction hein, entre périphérie ou marge, pour prendre un exemple assez simple, la périphérie est forcément spatiale. Par exemple, un espace frontalier est forcément en situation de périphérie, ne serait-ce que par définition, alors qu'il peut parfaitement être tout à fait intégré et pas du tout marginalisé. Hein. La région de Lille, aujourd'hui, par exemple, à l'échelle de la France, on est sur un espace qui, a priori, est périphérique, mais qui n'est absolument pas marginalisé, hein, loin s'en faut. Donc voilà un exemple pour bien illustrer hein, cette distinction entre périphérie, ici, et marge, et la complexité qu'il y a derrière cette notion de marge et qu'il y a moins derrière cette notion de périphérie. Et puis, alors, hasard un petit peu du calendrier ou de l'actualité politique française, il se trouve que cette question des marges qui était un petit peu... Voilà, nouvelle pour ces questions du CAPES en 2016, donc elle est rentrée en 2015, hein, s'est trouvée un petit peu au cœur de l'actualité au début de l'année dernière, avec donc cette crise dite des gilets jaunes, entre guillemets, qui se retrouve aussi à pouvoir être très largement investie ou au moins débattue au regard de cette question de la France des marges. Et il se trouve que voilà, cette actualité a permis aussi un rebond autour de ces questionnements sur les marginalités. Alors, suite à la sortie de l'ouvrage, hein, mais du coup, cet ouvrage est aussi intéressant à lire au prisme de ce qui a pu se passer et se dérouler par la suite. Et notamment, certains débats qui agitent hein, les sphères géographiques en France, et puis même plus largement, notamment dans le cadre de cette crise-là, la sphère médiatique en général, hein, autour de cette question de fracture territoriale en France qui recoupait tout à fait cette question de la France des marges, notamment avec cette cristallisation un petit peu hein, des controverses autour de certains auteurs, notamment Christophe Guilluy, hein, ici, qui est un auteur particulièrement débattu en France et qui, au tournant des années 2000-2010, a sorti une série d'ouvrages, dont notamment « Fracture française » ou « La France périphérique », qui revenait déjà sur ces questions-là et qui ont été largement débattues en géographie.
Alors effectivement, autour de cette difficile désignation de ces territoires que l'on suppose être relégués, être parfois oubliés, être éloignés, il y a effectivement toute une littérature dont le champ médiatique, politique s'est saisi. Alors on peut revenir évidemment sur la France des fractures, dont vous avez entendu parler au niveau médiatique ces tout derniers jours pour... l'un des premiers hommes politiques à l'avoir employé et mis sur le devant de la scène, donc Jacques Chirac, hein, avec déjà cette question qui se posait au milieu des années 1990, et qui ensuite a été non pas occulté, mais en tout cas n'a pas conduit à être forcément mobilisé tout de suite, ni dans le champ des analyses, ni dans le discours politique, à la fin des années 1990 et début des années 2000, mais qui réapparaît sous la plume d'un certain nombre donc, d'auteurs, dont Christophe Guilluy, à travers son discours sur ce qu'on entend par la France périphérique. Alors cette France périphérique, telle que l'a définie Christophe Guilluy, a fait couler beaucoup d'encre, chez les géographes notamment, mais pas seulement, dans les discours politiques et médiatiques. Christophe Guilluy est sans doute un des géographes qui a été le plus médiatisé, avant même la crise ou l'épisode des Gilets jaunes, autour de ce discours qui voudrait ou qui défend la thèse que l'éloignement des centres-villes, des centres métropolitains, serait à l'origine d'une exclusion, d'une forme de relégation, et expliquerait notamment des sentiments de repli qui peuvent être attachés aux espaces éloignés de la ville, périurbains, qui souffriraient d'indicateurs socio-démographiques défavorables, et expliquerait des votes de repli identitaire, notamment à l'époque Front National ou Rassemblement National aujourd'hui. Et donc, ces théories, alors qui sont évidemment un peu plus complexes que ce qu'on vous en dit là aujourd'hui, essaieraient d'associer la mise en périphérie, l'éloignement des centralités métropolitaines avec cette difficulté sociale et également ses choix de vie et ses choix politiques. Derrière la thèse de Christophe Guilly sur une logique d'association entre un territoire et une logique de vote et des modes de vie, il y a en réalité une très grande diversité d'appréciations qui peuvent être mobilisées aujourd'hui. Derrière cette France périphérique, donc éloignée des villes, le discours a souvent été un peu réducteur. Si on prend un exemple à Rennes, qui voudrait qu'effectivement, à mesure que l'on s'éloigne de la ville, on ait un gradient socio-spatial, c'est occulté que la première couronne rennaise a aujourd'hui, au niveau des revenus, un niveau qui est équivalent et voire supérieur à la ville de Rennes. Et que la commune la plus riche que l'on retrouve sur la métropole rennaise, c'est une commune périurbaine, c'est Saint-Grégoire. Donc, effectivement, ce gradient d'éloignement à la ville mérite d'être apprécié avec beaucoup de nuances. Les taux de chômage sont également aussi beaucoup plus forts dans les centres-villes et au sein des métropoles que ce que l'on peut retrouver dans les espaces périurbains. Et tout un certain nombre d'autres indicateurs méritent aussi d'être balayés, d'être revus au regard des nouveaux enjeux que l'on a aujourd'hui, notamment l'éloignement de l'emploi, des lieux de vie. Il y a un chiffre que j'aime bien rappeler souvent, c'est que 60% aujourd'hui de la population française ne fait pas partie de la catégorie population active. Donc cette question de l'éloignement au lieu d'activité ne se pose pas du tout de la même manière pour tous les Français et on ne peut pas avoir comme seul critère d'intégration la centralité urbaine. Il en existe aujourd'hui de différentes formes et à différents niveaux. Et c'est justement, vous voyez, derrière l'idée de marge comme rapport à une norme, et cette norme pouvant être débattue et plurielle, que l'on souhaite ici complexifier le débat sur cette France périphérique où le seul gradient d'éloignement à la ville, qui serait un éloignement subi et contraint, montre qu'en réalité, derrière, vous avez une très grande diversité de configurations territoriales, surtout aujourd'hui, alors que vous êtes sur la France, des mobilités, d'espaces aussi qui peuvent fonctionner avec d'autres logiques, de renaissance rurale pour certains qui la défendent comme telle, ou encore avec un rapport au numérique qui fait un peu basculer les logiques d'intégration. Par exemple, vous avez à l'intérieur de cet ouvrage un chapitre qui porte justement sur les formes de marginalité intégrée par le numérique ou d'une intégration de la marge au regard du numérique et qui renverse l'ordre de valeur tel que l'on peut l'apprécier traditionnellement.
Et pour autant, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que la métropolisation, comme processus de concentration des hommes, des richesses et des activités au sein des grandes métropoles, ne conduit pas à produire finalement de la marginalité. C'est une question aussi qu'on peut se poser actuellement, parce qu'effectivement, ce processus de métropolisation est actuellement un processus très très fort ou qui structure très fortement l'évolution de nos territoires à l'échelle française.
Alors là, par exemple, dans l'article, dans le chapitre de Didier Despont sur la France des marges, qui travaille notamment sur la question des quartiers prioritaires de la politique de la ville, donc ceux pour lesquels des dispositifs d'exception sont mis en place à cause d'indicateurs de précarité, d'indicateurs économiques notamment traduisant des difficultés, eh bien, ces indicateurs qui aujourd'hui sont réalisés à partir uniquement d'un critère économique, c'est-à-dire avec un carroyage qui est appliqué à l'échelle du territoire français où on identifie sur des carreaux qui sont de 200 mètres sur 200 mètres les ménages qui vivent avec un niveau de revenu inférieur à 60% du revenu médian, eh bien on s'aperçoit que cette géographie, qui est censée être la géographie de la pauvreté, traduit de manière très imparfaite cette idée de la France périphérique. Et qu'on se retrouve effectivement avec des logiques, des formes de pauvreté et d'exclusion en plein centre des métropoles, et elles-mêmes d'ailleurs participant à des formes de relégation à des échelles parfois très fines. Et qu'au contraire, si on regarde les espaces ruraux, la géographie de la pauvreté dans les espaces ruraux prend aujourd'hui des formes extrêmement diverses. On pourrait considérer quasiment en tache de panthère sur le territoire et qu'il est très difficile d'avoir un gradient établi au regard de cela. Alors parfois ça fonctionne, la thèse de la France périphérique fonctionne parfois avec un véritable gradient socio-spatial d'éloignement des catégories populaires du centre-ville, et puis d'autres fois, au contraire, ce modèle est complètement inopérant. C'est le cas notamment pour les espaces de la pauvreté, Puisqu'on ne rappelle pas suffisamment, sans doute, que les espaces périurbains dont il est souvent question et qui sont au cœur de la crise des gilets jaunes, de la question des espaces périphériques, il n'y a pas que l'espace rural, il y a aussi beaucoup les espaces périurbains qui ont été débattus à ce niveau. Les espaces périurbains sont marqués avant tout par une forme d'homogénéisation sociale dont les extrêmes sont absents. C'est-à-dire que dans ces espaces périurbains, on ne retrouve pas de catégories extrêmement pauvres et on ne retrouve pas de catégories non plus extrêmement riche. C'est donc l'espace des classes moyennes, au sens plein du terme, et qu'effectivement, ces écarts qui restent encore propres à l'échelle des métropoles sont pointés du doigt par les dispositifs donc, d'un peu d'exception dans le cadre notamment de la politique de la ville.
Même si on constate sans doute aussi une évolution hein, de ce périurbain, notamment aujourd'hui. Enfin, y a un chapitre dans l'ouvrage de Lionel Rouget, hein, qui notamment a travaillé sur ces questions-là, c'est ce qu'il appelle les captifs du périurbain, qui seraient finalement aussi des nouvelles formes de populations reléguées qui viendraient aujourd'hui vivre dans le périurbain. Et ça pose une nouvelle question, sans doute une mutation autour de ces espaces périurbains qui jusqu'ici étaient concernés par une forme d'homogénéité globale du public qui les concernait. Et tu donnais l'exemple opposé tout à l'heure, où aujourd'hui, dans le périurbain, on a à la fois des populations plutôt riches, type à Saint-Grégoire, notamment dans les premières couronnes périurbaines, et puis des populations plus pauvres ou en voie de relégation. Hein, c'est ce qu'il appelle donc ces captifs du périurbain et qu'il met bien en avant dans le chapitre qui est consacré dans l'ouvrage.
Et qui dépend très fortement des territoires étudiés. C'est-à-dire que ça fonctionne relativement, et encore, c'est en voie de se transformer profondément sur la grande région parisienne. Mais effectivement, on le voit sur, à l'échelle de métropoles régionales, le modèle est beaucoup plus complexe. Et on ne retrouve pas ces formes de relégation ni ces formes de captivité du périurbain de la même manière, d'autant qu'aujourd'hui, on voit aussi s'organiser ces espaces périurbains autour d'un recentrage des activités au sein de ces territoires et de ces espaces de vie qui vont réussir à organiser de plus en plus des activités du quotidien, qui vont être de plus en plus des pôles de services et qui traduisent aujourd'hui des mobilités qui ne sont plus seulement des mobilités en direction des principaux pôles d'emploi, centralités urbaines ou autres. Le deuxième chiffre aussi qu'il faut bien avoir en tête souvent, c'est la part des déplacements consacrés à la distance et au parcours, en tout cas, domicile-travail. C'est 24%. 24% sur la totalité des mobilités et la totalité des déplacements aujourd'hui sont des déplacements qui concernent uniquement le déplacement domicile-travail. Donc ça veut dire que 75% des déplacements, les trois quarts des déplacements, ont d'autres finalités, d'autres destinations, d'autres configurations. Donc évidemment, des espaces qui sont beaucoup plus complexes qu'uniquement cette appréciation éloignement, lieu de vie, avec lieu de travail, mais vous avez beaucoup d'autres formes de mobilité associées aux dimensions récréatives, au fait d'aller faire des courses, d'aller par exemple retrouver des amis, la famille ou autre, d'autres déplacements qui peuvent être aussi entre différentes activités, ce qu'on appelle des boucles de mobilité, des boucles de déplacement, qui expliquent qu'aujourd'hui les configurations sont devenues emboîtées et plus complexes.
Et alors, ce qui est intéressant, au-delà de toutes ces thématiques qu'on a vues et qui font partie un peu de nos actualités, de notre vécu à tous et qui nous concernent, c'est que finalement, cette prise en compte de ces fractures ou de ces espaces de vie qui ont tendance à se fragmenter depuis une vingtaine d'années sont finalement pris en compte dans le discours politique de manière relative. Alors, moi, c'est toujours un exemple que je citais à mes étudiants quand je préparais cette question-là en cours. C'était au moment de la présidentielle de 2017 et je leur avais fait j'avais pris le pari avec eux que cette question des fractures territoriales serait au cœur de la campagne présidentielle de 2017. Pour moi, c'était évident, il y avait quelque chose qui posait un vrai souci depuis déjà quelques années. Et puis, je m'étais complètement planté. C'est-à-dire que personne n'avait parlé de ça à la présidentielle. Et je me rappelle d'avoir consciencieusement, avec les étudiants, épluché tous les programmes de tous les candidats, et il n'y avait absolument pas un seul mot sur cette question de potentielle fracture territoriale en France. Alors, j'avais été bon pour payer ma tournée de café à tous mes étudiants, heureusement, ils n'étaient pas très nombreux, mais effectivement, il y a une question qui, pendant très longtemps, est restée un peu sous le tapis, entre guillemets, d'un point de vue politique, et que la crise des Gilets jaunes a sans doute contribué à remettre un peu sur le devant de la scène. Et puis, un autre élément qui est qui est important ici à prendre en compte pour considérer l'évolution de ces espaces de marge, c'est qu'on est aussi sur un processus évolutif, hein, évolutif dans le temps notamment, hein, et c'est notamment quelque chose sur lequel un chapitre revient, c'est toute la question des anciens espaces industrialisés qui étaient des espaces centraux. On peut penser notamment aux différents bassins houillers, hein, français, ou bassins de l'industrie lourde, sidérurgique, notamment dans la vallée de la Moselle, par exemple, hein, qui étaient des espaces centraux de l'industrie française, très bien intégrés, et qui, par le processus de désindustrialisation, se retrouvent aujourd'hui, pour certains, en position plus marginale. Et cette idée que, finalement, un espace peut très bien être intégré et être un espace central à un moment et se retrouver marginalisé aujourd'hui, avec tout ce que ça peut engendrer en termes de problématiques et de difficultés pour ces espaces-là, hein, notamment en termes de gestion des friches issues de cette désindustrialisation, hein, ce sur quoi revient notamment un chapitre, hein, de Guy Baudel ici dans l'ouvrage. Je te laisse développer sur ce chapitre-là.
Oui. Alors, à travers cette entrée des enjeux que l'on retrouve derrière l'aménagement, le réaménagement de territoires en déprise, en relégation ou en situation de marge, il y a toute une idée aussi que les politiques d'aménagement du territoire peuvent être appréciées de deux manières, avec une visée générale qui serait une idée d'égalité, de continuité territoriale, de justice spatiale et donc avec une certaine conception de ce qui se rapporte à une forme de norme en termes, par exemple, d'accessibilité, en termes d'équipement et de services. Donc, évidemment, l'aménagement du territoire et les acteurs de l'aménagement du territoire ont à cœur de mettre en place des politiques d'aménagement susceptibles de réduire les écarts à cette norme. C'est par exemple toutes les politiques relatives aux déserts médicaux, dont là encore une fois, il faut apprécier de manière nuancée la définition. Encore un petit exemple à ce niveau, si vous parlez des déserts médicaux, généralement la statistique qui est toujours retenue, c'est le nombre de médecins rapporté au nombre d'individus. Puis on vous fait une carte ensuite pour vous expliquer qu'effectivement vous avez des territoires qui sont moins bien dotés que d'autres. C'est oublier deux choses. D'une part, qu'à l'échelle de territoires plus faiblement peuplés, donc de faible densité, la présence d'un médecin rapporté au nombre d'individus va au contraire montrer qu'ils sont plutôt pas si mal dotés que ça au regard de certains espaces urbains. Et c'est aussi oublier un autre aspect très important, c'est l'accessibilité, y compris physique et très souvent aussi sociale, qui fait que des fois, la distance de 2-3 km peut être un handicap lourd, notamment pour des espaces en situation de vieillissement, avec des populations ayant des difficultés à se déplacer, sans service de transport en commun ou autre. Donc, c'est à la fois repenser les logiques de l'aménagement du territoire qui visent à la réduction des formes de marge et de marginalité au regard de l'adaptation d'une norme, mais c'est également comprendre que les choix d'aménagement du territoire sont eux-mêmes parfois producteurs de normes et du coup de marginalisation et de marge par les logiques qui peuvent être mises en place. Alors ça, c'était vrai en l'occurrence ici, donc soit on réduit l'écart à la norme, c'est le cas des espaces en reconversion dont tu parlais à l'instant, on essaie d'appliquer une norme d'accès par exemple, c'est le cas pour les déserts médicaux, et puis on a également aussi un rapport à la norme qui peut être négocié, différencié. On peut penser par exemple au cas des espaces souvent ruraux qui se trouvent être intégrés ou à proximité de parcs naturels régionaux ou dont la dynamique spécifique environnementale justifie encore une fois de mesures considérées comme d'exception et qui peuvent à la fois contribuer soit des formes et des logiques de dynamisation, la création d'un parc, c'est générer des formes d'activité touristique, une certaine attractivité, une reconnaissance, une identité, mais c'est aussi en limiter les formes de développement par tout un ensemble de réglementations qui s'y rattachent.
Et donc, au-delà de ces espaces, évidemment, vous voyez, les questions se posent donc à différents niveaux, à différentes échelles, et on revient bien ici sur cette importance aussi de considérer la marge en fonction des échelles et des types de populations qui sont concernées. Et puis alors, autre élément qui est abordé dans cet ouvrage, c'est bien sûr la question de l'outre-mer, qui finalement, l'Europe les définit comme telles, en situation ultra-périphérique par rapport aux territoires européens, et sur lesquels cette question des marges se pose avec une insistance toute particulière, Ça avait d'ailleurs été un des sujets de proposés au concours, hein, sur cette question des DROM, et donc départements et régions d'outre-mer, liés aux marges et qui posent aujourd'hui des vraies questions, hein, là aussi, qui reviennent régulièrement dans l'actualité avec toutes les crises sociales qu'on a pu avoir ces dernières années, que ce soit à Mayotte récemment ou en Guyane il y a un petit peu plus longtemps. Et c'est aussi un des aspects sur lequel cet ouvrage revient et qui est un aspect fondamental et qui finalement traverse les décennies écoulées et qui traversera sans doute les décennies à venir, avec une cumulation de niveaux de marginalité sur ces espaces-là, liés notamment pour certains à des difficultés d'accès, avec parfois, là encore, des formes de marginalité emboîtée, c'est-à-dire effectivement la Guadeloupe en général ou la Martinique en général ou Mayotte en général sont en situation ultra-périphérique par rapport à la France, et la question de l'accessibilité se pose par rapport à la France, mais quand vous regardez à l'échelle de ces espaces-là, vous avez là aussi des espaces qui se retrouvent marginalisés par rapport au cœur de cette île même. Hein. Pour l'exemple de la Guadeloupe, ça marche très bien pour Marie-Galante notamment. À Marie-Galante, vous savez, c'est une île qui est au large de Pointe-à-Pitre. Vous êtes à Marie-Galante, vous êtes non seulement à plusieurs heures d'avion de la métropole, mais après vous êtes en plus à une heure de bateau de Pointe-à-Pitre. Et une fois que vous êtes à Marie-Galante, vous êtes potentiellement ensuite à une demi-heure des points les plus reculés de l'île. Donc vous voyez comment ces systèmes de marginalité peuvent aussi s'emboîter à des niveaux spatiaux jusqu'à finalement faire émerger des espaces qui se retrouvent dans des positions ultra marginalisées, hein, entre guillemets, avec toutes les difficultés que ça peut poser. Donc importance, hein, voilà, des échelles à laquelle on envisage ces marges, et puis parfois de ces emboîtements de marginalité à la fois spatiale et sociale à différents niveaux qui sont très très importantes à prendre en compte.
Bah, c'est donc exactement ce que tu résumes ici et qu'on retrouve dans le texte qui est celui de Jean-Christophe Gay dans cet ouvrage, qui montre que justement cette accumulation de formes de marginalité ou d'échelles de marginalité que l'on peut lire à différents degrés justifie des politiques et des systèmes administratifs qui sont pour le coup négociés, dérogatoires, qui ne donnent pas lieu du coup à la même organisation et permettent de concevoir la différence et donc l'écart à la norme telle que l'on se la présente dans le système métropolitain, autrement dit avec une autre organisation représentative, une autre configuration aussi de l'administration et de son fonctionnement.
La France des marges, un ouvrage dirigé par Martine Candelier-Cabon et Solène Godin, une rencontre animée par Brieux Bisson, doctorant en géographie. Pur Café. Une émission proposée par les Presses universitaires de Rennes, la Bibliothèque universitaire centrale de Rennes 2 et la Radio Syllabe.